Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Et aujourd'hui, j'espère que vous avez bien tout révisé. Il va y avoir un contrôle des connaissances, je vais faire des questions sur quelqu'un dont vous avez fait le portrait il y a peu.
Ah oui, qui donc ?
Ah bah je vais pas vous le dire tout de suite.
Bah si, ça me permettrait de réviser.
Bah non, justement, on va voir si vous retenez des choses quand même. Et puis il y aura aussi des questions sur les mathématiques et les graffitis.
Oh là là, oui, oui, oui. C'est pas notre faute. Mais avant cet affrontement, on va lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine veut nous raconter l'histoire d'un potier qui n'a pas mis le feu aux poudres, mais à son mobilier pour faire tourner son four. Son nom est resté célèbre. Bernard Palissy.
Ah, Bernard Palissy, alors en plus, je suis quand même pile poil dans votre roue, oui, avec Guy Fawkes, parce qu'il est né en plein dans l'époque des guerres de religion, ce célèbre potier émailleur de la Renaissance. Il serait né vers 1510 à Saint-Avit, près de la Capelle Biron. On est à une soixantaine de kilomètres d'Agen. Son père était ouvrier verrier. Et donc, il le place aussi, tout naturellement, ce fils, comme apprenti verrier à Biron. Et Bernard Palissy va faire, à l'époque, c'est ce que font les artisans les meilleurs, il fait un tour de France pendant plusieurs années, au terme duquel il s'établit à Saintes. Et son vrai métier, ça c'est une terminologie un peu oubliée aujourd'hui, bien sûr, ça s'appelle la pourtrecture. La pourtrecture, on entend le mot portrait derrière ça. En fait, il fait des cartons de vitraux, des dessins qui vont être transformés en vitraux, et puis il lève des plans. Et tant que la poterie ne le nourrira pas, il va faire ça. Et un jour, chez un grand seigneur local, il voit une coupe émaillée blanche d'une parfaite beauté. Et il tombe en arrêt devant lui, et cette coupe va changer sa vie dès lors. Il n'aura plus qu'une idée fixe, reproduire la même. À quoi pouvait ressembler cet objet, cette coupe ? C'était probablement l'une de ces coupes ou jattes que les Italiens appelaient alors de la maiolique, la majolique ou de la maiolique, parce que les ouvriers morts, on prenait les ouvriers du Maghreb, faisaient ça en Espagne, à Majorque. Donc la maiolique, ça vient du nom de Majorque. Et les Italiens se sont mis à les copier, en faire autant dans leurs ateliers de Faenza. Et quel mot a donné
la faïence.
Faenza, la faïence, voilà. Alors peut-être que cette coupe, on n'en sait rien, c'était peut-être plutôt de la porcelaine chinoise, mais enfin, quoi qu'il en soit, à 7 minutes précises, Bernard Palissy se met en tête de reproduire cette glaçure blanche particulière, et ça va être pour lui une bataille passionnée de 20 ans, parce qu'il ne sait rien des émaux, c'est pas du tout son métier, hein. Il ignore tout des matières, et de leurs propriétés. Par exemple, il n'a aucune idée du fait que les métaux ne fondent pas tous à la même température. Il part donc dans cette aventure créative au petit bonheur, la chance, sans direction, sans méthode. Il procède par tâtonnement. Il va faire évidemment des tentatives multiples, puisque un jour, il met au feu 300 poteries qu'il a préalablement préparées. Et au bout de 4 heures de cuisson, il en retire une de ses épreuves qui a complètement fondu, mais qui est d'un si beau blanc que là, il est à deux doigts de se dire « ça y est, eureka, j'ai trouvé ». Mais en fait, non, il n'est pas encore arrivé au bout, puisque l'objet a fondu, donc c'est quand même pas très très pratique. Et en réalité, avec ce premier blanc qu'il obtient sur cette coupe fondue, eh bien, il va se passer l'épisode suivant. C'est qu'un jour, il prépare une fournée et puis il s'aperçoit qu'il n'a plus de bois. Alors, il est complètement hors de lui parce qu'il est emporté par ses expériences et sa volonté d'arriver à reproduire cette coupe. Alors, il part comme un fou dans son jardin. Il se met à arracher les ceps de vigne, il arrache les palissades de son jardin. Ensuite, comme il n'a pas encore assez de bois, il démonte les lattes de son plancher, il démonte les tables, les meubles, tout ce qui tombe sous sa main, il le met au feu. Évidemment, sa femme qui est là s'arrache les cheveux, se tord les bras en hurlant « au secours, au secours !» Il est en train de brûler la maison, les voisins crient au fou. Ça devait être une scène assez terrible. Et il va quand même, à force d'avoir cramé son mobilier, en 1555, il finit par trouver le fameux secret de l'émail jaspé et ces pièces émaillées que lui-même appelle les rustiques figulines. Et avec cette technique, il va façonner toute une vaisselle et il appelle ça ses bassins rustiques. Donc c'est une vaisselle qui est agrémentée d'une faune de reptiles, lézards, serpents, coquillages, poissons, anguilles. Vous voyez à quoi ça ressemble, ces grandes coupes pleines d'animaux. Bon, aujourd'hui, on trouve ça plutôt surchargé, c'est kitsch. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, naturellement, il faut se rendre à Écouen, au musée de la Renaissance. On y trouve beaucoup d'exemplaires des rustiques figulines de Bernard Palissy, parce que le connétable de Montmorency, qui était le grand, un peu le père supplétif d'Henri II, un très puissant seigneur qui possédait 130 châteaux en France, richissime, mécène, eh bien, il avait repéré Bernard Palissy en Saintonge, et c'est lui qui l'a fait venir à Écouen. C'est lui qui l'a présenté à Catherine de Médicis. Donc, grâce à lui, Bernard Palissy va connaître les honneurs, les succès, la considération. Il va devenir parisien, s'installer.
Il pourra se racheter du mobilier.
Aux Tuileries, il a pu se racheter du mobilier. Il a eu une fin très malheureuse, puisque, évidemment, je le rappelle, on était en pleine guerre de religion. Mmh. Il avait été protégé un temps étant protestant par ses puissants protecteurs, mais il a fini enfermé à la Bastille. Et là, ne voulant pas se rétracter et renoncer à sa religion, il est mort à 80 ans à la Bastille, victime de mauvais traitements.
Merci beaucoup, Clémentine.